La quotidienne, avec Michel Cloutier et Izzy Lévesque. Un regard sur l'actualité agricole.
Bienvenue à La quotidienne. Mon nom est Michel Cloutier. Je suis accompagné, comme à l'habitude, de Izzy Lévesque. Ben bonjour, oui. Izzy. Comment ça va?
Bonjour, Michel.
Un nouveau chroniqueur aujourd'hui, Yannick Patelli de La vie agricole et Michel Saint-Pierre de l'Institut Jean Garon. Bonjour, messieurs.
Bonjour, Michel. Bonjour, Izzy.
Comme j'ai toujours l'habitude de le faire, je vais vous laisser présenter notre invité d'aujourd'hui.
Alors oui, Michel, on a aujourd'hui comme invité Sylvain Charlebois. Sylvain Charlebois, que les auditeurs des radios qui nous suivent depuis quelques temps maintenant le connaissent bien, puisqu'il a participé à plusieurs quotidiennes. Sylvain Charlebois, il est en fait le chercheur en référence sur l'agroalimentaire dans plusieurs médias au Québec. Il est aussi parrain de l'Institut Jean Garon. Il nous fait le plaisir d'être souvent avec nous pour nous parler de l'actualité agricole agroalimentaire. Et Sylvain, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, en fait, j'aimerais ça qu'on reparle entre autres d'un texte que tu as produit récemment, qu'on a publié d'ailleurs sur notre site, où tu disais les nombreuses occasions manquées par le ministre Champagne. Et ça faisait référence en fait à ce que vivent les Canadiens actuellement, c'est-à-dire l'augmentation de l'alimentation entre autres. Mais dans ce texte, tu dis que la majorité des Canadiens, 82% de ces Canadiens, attribuent la hausse des prix alimentaires à une recherche excessive des profits par les épiceries. Puis là, tu donnes un conseil un peu en disant ce serait peut-être bon que finalement ces fameuses épiceries, puis le gouvernement s'accorde pour créer un certain lien de confiance. Et le lien de confiance semble brisé. Qu'est-ce qu'il faut faire pour recréer le lien de confiance entre les consommateurs et les gouvernements?
D'abord, le ministre Champagne, la semaine passée, présentait sa feuille de route pour stabiliser les prix alimentaires. Faut que je vous dise que ça fait depuis la fin juillet que je discute avec le ministre Champagne là sur à propos de ce dossier-là. J'ai même été invité à la réunion à Ottawa avec les 5 grandes de la distribution là, donc Loblaws, Sobeys, Metro, Costco et Walmart, ils étaient tous dans la même salle, incluant moi-même et le ministre. Il y avait aussi la sous-première ministre, Chrystia Freeland, qui se joignait à nous pour la première partie de la réunion. C'était une réunion un peu bizarre, là, parce qu'au début, évidemment, on invite ces gens-là à une réunion pour parler de ce que je pense qui est le sujet le plus sensible dans l'industrie, c'est les prix. Alors, c'est sûr qu'il y avait, probablement plus d'avocats que de PDG dans la salle. Là. Ça vous donne une idée, là. On m'a demandé de faire une présentation d'à peu près une quinzaine de minutes là sur l'état des les conditions de marché, qu'est-ce qui se passe exactement, qu'est-ce qu'il y en est de l'abus. Puis j'ai toujours dit qu'il n'y a pas vraiment d'indicateur comme quoi qu'il y a de l'abus là, dans le système. On regarde les états financiers là, par rapport aux ventes alimentaires, il n'y a pas grand-chose là. Malgré tout, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il y a de l'abus, puis c'est ça qui est important. C'est pour ça qu'il était là. M. Champagne a un gros bout du bâton, là, comparativement aux épiciers. Il y a beaucoup d'épiciers qui sont jugés, critiqués à chaque jour. Alors, la semaine passée, évidemment, on s'attendait à un plan qui était pour justement rassurer les gens. Puis à long terme, moi, je trouvais que la feuille de route avait de l'allure, là, donc on incluait une réforme de la loi sur la concurrence qui est vraiment nécessaire, je pense. Deux, le code de conduite avec les épiciers, c'est nécessaire. Mm-hmm. On n'annonçait pas, par contre, qu'on voulait accélérer l'adoption. Ça a été un manque. Et aussi, on parle aussi d'une base de données, créer une base de données pour rendre les données plus transparentes et accessibles pour les PME, surtout au Québec. Il y a beaucoup de PME au Québec qui n'ont pas accès à d'informations comme Provigo ou Sobeys. Ça, à mon avis, c'est un manque. Et puis, avec ça, ça pourrait aider. Mais à court terme, là, j'ai pas vu grand-chose. C'est vraiment... Monsieur Champagne, dans le fond, nous offrait à peu près les mêmes choses que les gens ont actuellement. Alors, c'est pour ça que j'ai l'impression que les gens ont resté sur leur appétit.
Oui, mais quand tu dis il n'y a pas d'excès de la part des épiceries en regardant les états financiers, par contre, la population a l'impression qu'il y a quand même des excès. Après, tu dis, ouais. Tu dis, dans les plans stratégiques, il faut développer réforme de la loi sur la concurrence, certes, mais il n'y a pas d'excès, mais en même temps, le fait qu'il n'y ait que justement 5 gros joueurs en fait au Canada, est-ce que c'est pas ce qui donne ce sentiment de manque de concurrence? Parce que tu regardes partout en Europe, il y a pas mal plus de monde dans la distribution qu'ici.
Il n'y a personne qui va dire qu'il y a trop de concurrence. Tout le monde va toujours chercher plus de concurrence. Le gouvernement, les consommateurs. Alors, est-ce qu'on a les conditions qui nous amèneraient à avoir plus de concurrence? À mon avis, non. Là. Il y a une chose qu'il faut avouer, c'est que le Canada n'est pas un marché intéressant. Là. D'ailleurs...
Pas un marché intéressant, mais rappelle-toi, il y a un an, deux ans, quand Carrefour a voulu acheter Couche-Tard, là, c'était parce que j'imagine Carrefour voulait mettre une pâte par ici.
Non, c'est le contraire.
C'est Couche-Tard qui a acheté Carrefour?
Oui, c'est Couche-Tard.
Oui, c'est le contraire. Écoutez, Carrefour peut acheter Loblaws 7 fois, là. C'est Carrefour, pas Carrefour, mais Alimentation Couche-Tard peut acheter Loblaws, cette fois, c'est un gros joueur. Je pense que il se cache pas. Couche-Tard veut devenir un distributeur alimentaire. Il a échoué parce que le gouvernement français dit non. Mais pour ce qui est de la concurrence, écoutez, il y a Lidl et Aldi qui sont aux États-Unis. Ils viennent pas au Canada parce que, justement, les coûts de distribution sont très élevés. Il y a aussi des conditions de marché qui sont pas faciles. Il y a une confrérie au sein de l'industrie qui mène à la fixation de prix, faut se l'avouer, il y a des problèmes. On le voit avec le pain. Il y a des soupçons comme quoi dans la viande, il y a des problèmes. Et on n'a pas le bureau de la concurrence pour rassurer le public. C'est pour ça que moi, je suis vraiment en accord avec une réforme de la loi sur la concurrence pour rassurer les gens. Là.
Et quand tu dis, en fait, il n'y a pas la volonté de Lidl, mettons, ou Albi de venir ici, même s'ils sont aux États-Unis, est-ce que c'est parce qu'on n'est pas assez populeux, il n'y a pas assez de monde au Canada?
Ben, c'est sûr, on est 40 millions dans un des plus gros pays au monde, donc les coûts de distribution sont élevés, mais faire des affaires en province, c'est pas facile non plus. Tu sais, il y a 10 provinces, il y a 10 règles différentes, c'est pas facile. Target est arrivé en 2014 au Canada, il est ressorti 9 mois plus tard parce qu'il s'est rendu compte que le Canada, c'est compliqué, là. C'est pas comme les États-Unis, là. On a perdu Nordstrom, on a perdu Sears, on a perdu Lowe's, on a perdu beaucoup de bannières dernièrement parce que c'est difficile au Canada. Alors, faut délibérément s'assurer que les conditions sont plus faciles pour les entreprises. Et Aldi, Lidl le voit, ça. Il le voit très bien. Ce qui est ironique actuellement, c'est que les bannières canadiennes s'intéressent aux États-Unis. D'ailleurs, TNT, qui appartient à Loblaws, va ouvrir 2 magasins, un dans l'État de Washington et un dans l'État de Californie dans les prochains mois. Donc, les bannières vont aux États-Unis, mais il n'y a personne qui va au Canada.
Sylvain, quand on dit que c'est plus difficile au Canada, est-ce que c'est essentiellement en raison de la grandeur du territoire ou la lourdeur administrative?
C'est les deux. Les deux, vraiment. C'est pas facile. Il y a beaucoup de règles au niveau de l'étiquetage, d'emballage. Il y a des barrières interprovinciales qui sont quand même restrictives aussi. Il y a les lois sur la main-d'œuvre qui dérangent en distribution aussi. C'est pas facile, hein. C'est beaucoup plus facile de traduire avec les États-Unis ou avec d'autres pays qu'avec d'autres provinces. On le voit dans l'alcool, on le voit dans toutes sortes de catégories. Donc, c'est pour ça que ça l'effraie beaucoup les distributeurs. Walmart, quand Walmart est arrivé au Canada en 94 en achetant Woolco, ils n'ont pas ouvert 400 magasins. Là. Ils ont ouvert à peu près, je pense, 15 magasins. Et progressivement, on a appris sur le Canada et on a pris sa place. Là. Et là, on est rendu à 400 quelques magasins à travers le pays, mais ça a pris du temps. Là. On a été patient chez Walmart. Mais c'est ça, être patient coûte cher aussi.
Ouais. Quand tu dis aussi, en fait, qu'il aurait fallu que le ministre Champagne fasse des actions plus immédiates avec les consommateurs, tu pensais à quoi, toi, comme action immédiate? Est-ce que c'était d'aider le consommateur directement dans son panier d'épicerie?
Ben, d'abord, le code de conduite, pour moi, c'est un élément important. Puis, j'aurais souhaité... Puisque le ministre a rencontré les 5 joueurs, j'aurais souhaité que peut-être qu'il annonce que les 5 bannières endossent le code De façon inconditionnelle, ce qui n'est pas le cas en passant actuellement. Là, on sait, je pense que tout le monde sait qu'il y a une bannière qui hésite encore. Donc, on n'a pas cet endossement-là qui est vraiment essentiel. Et on aurait pu accélérer l'endossement. L'autre chose, si on veut aider les consommateurs immédiatement, là, on devrait commencer à parler de taxation. Je parlais justement à une des bannières la semaine passée. Les gens ne se rendent pas compte. Il y a 4600 dans un supermarché normal, là, il y a 4600 produits qui sont taxés au détail. Non, il y a des gens qui pensent que ces produits-là sont moins bons pour la santé, mais avec une inflation de 7-8%, il est peut-être grand temps qu'on commence à réviser les règles de Revenu Canada et de voir comment on pourrait exempter plus de produits qui sont justement santé. Je pense aux salades, même il y a plusieurs produits transformés au Québec qui sont très bons pour la santé, des produits naturels qui sont actuellement considérés comme des collations. Sont taxés. La réduflation augmente le nombre de produits qui sont taxés maintenant. Il y a des produits qui n'étaient pas taxés et maintenant le sont taxés en raison de la réduction des formats. Alors, c'est ce genre de discussion-là. M. Champagne aurait pu, justement, du jour au lendemain, éliminer cette taxe-là, comme on l'a fait en habitation. On a éliminé la TPS du jour au lendemain. On aurait pu faire la même chose avec l'alimentation.
Oui, parce que la taxation gouvernementale, dans ton texte, tu parles, tu dis, c'est entre 300 et 900 millions de dollars par année, en fait.
Oui, cet argent-là vient des poches des contribuables, des consommateurs. C'est 300 à 900 millions, puis je suis pas mal certain que la plupart des gens reprendraient cet argent-là, compte tenu du fait que ça coûte plus cher à l'épicerie.
Michel?
Oui, je veux ça. Dire quelques petits mots, mon ami Sylvain. D'abord, je suis assez d'accord avec ton analyse, Sylvain, au niveau de la concurrence. Là. Et le fait que, pour le public, c'est plus facile de dire, d'accuser l'épicerie, parce que c'est celui qui le voit le plus souvent, que d'aller voir un peu en amont de ça, les fournisseurs, quelle était l'inflation au niveau, par exemple, dans le domaine de l'alimentation animale, il y a eu une inflation qui est beaucoup plus grande que les 7-8% dont on parle. Mais ce que je voulais ajouter, c'est qu'une des choses dont on parle pas beaucoup, c'est comment gérer l'inflation, comment le public, par une meilleure éducation, par des choix... Parce que, tu sais, l'inflation, telle que calculée, c'est sur un panier d'épicerie standard, là. Hein? Donc, on peut aller à côté de ça. On n'est pas obligé d'aller acheter les produits qui ont connu une inflation, d'ailleurs, beaucoup supérieure à 6 ou 7 %, là. Donc, on peut faire des choix. Et par cette éducation-là, je crois, on peut certainement aider les gens à dire... Ben, combattez l'inflation en faisant des meilleurs choix. Il y a plein de belles occasions quand on regarde les circulaires et pour lesquelles tu n'es pas obligé d'acheter systématiquement ton steak haché à même place ou acheter du steak haché point. Tu peux peut-être regarder du côté de la volaille parce qu'il y a souvent des grands spéciaux. Choisir, mieux choisir, on n'en parle pas. On dirait que ça ne fait pas partie de la stratégie ni des gouvernements pour éduquer les gens, ni du public lui-même, et des médias également, Sylvain, je dirais.
Oh oui, je suis très d'accord avec toi, Michel. En fait, ce que je remarque depuis un an et demi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne réalisent pas à quel point ils ont plus de pouvoir. Là. Ils ont beaucoup de pouvoir comme consommateurs. Tu sais, d'arriver au comptoir des viandes puis voir un produit qui est trop cher, ça n'a pas nécessairement dit qu'on est vraiment vulnérable ou à la merci de l'industrie. Il y a d'autres choix, il y a d'autres options. C'est simplement ça, la réalité, mais c'est sûr que je dois avouer que les médias ont vraiment embarqué dans cette campagne, surtout dans le Canada anglais, je sais pas au Québec, là, mais dans le Canada anglais, là, c'est incroyable à quel point la campagne anti-distributeur a fonctionné. Là. Cette campagne-là a été menée par Jack Mensing, là. Ça a été incroyable. Ouais. Tout le monde déteste les épiciers. Tout le monde pense qu'il y a de l'abus sans aucun fait, là, sans réaliser aussi que les consommateurs ont quand même des choix et du pouvoir malgré tout. Là. La réalité actuelle, là, si vous regardez les données de Statistique Canada, là, en raison des hauts taux d'intérêt, le monde dépense moins à l'épicerie et non plus, malgré les prix élevés. Alors, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Les gens sont étouffés, oui, en raison de leur hypothèque, loyer, mais en même temps, je suis pas mal convaincu que les gens se débrouillent. Là. Les gens sont à l'affût de leurs choix, de leurs options à tous les jours.
Là. Oui, Sylvain, je pense qu'on va aller à une courte pause et puis on revient tout de suite après.
Écoutez la saison 2 de La vie agricole à Ma TV. Cette année, on focus sur les fromages du Québec. Écoutez cet automne et cet hiver Ma TV pour découvrir l'histoire et les fromages de la fromagerie Boivin. Fromagerie L'Ancêtre, Fromagerie La Station, Fromagerie Les Basques, Laiterie Charlevoix et Yannick Fromagerie. Et grâce à l'apport de plusieurs experts, dont ceux de l'Institut Jean Garon, découvrez les enjeux qui attendent les fromagers du Québec dans l'avenir.
Avec le M7 de Kubota, soyez bien équipés pour mieux travailler. Exécutez tous vos travaux d'entretien avec performance, confort et polyvalence. Profitez d'incroyables offres sur les modèles M7 en plus de la meilleure garantie de l'industrie. Visitez votre concessionnaire Kubota pour plus de détails.
Venez participer aux Journées agricoles Limoilou cet automne. Limoilou se veut ainsi un pont entre la ville et nos campagnes. Venez rencontrer ceux qui produisent ce que vous retrouvez dans vos assiettes au quotidien. Sur place aussi, plusieurs kiosques éducatifs et des jeux pour enfants. Le samedi 14 octobre, les rencontres se feront sur le thème « Boissons et vendanges ». Et le samedi 4 novembre, sous le thème « Fondue et fromage ». Une invitation de la SDC Limoilou et de la vie agricole. Avec le partenariat de Nature Bélisle, le spécialiste de la nutrition des poules en ville. Nous voilà de retour. Je vous rappelle qu'on est avec Yannick Patelli de la vie agricole, Michel Saint-Pierre de l'Institut Jean Garon, Izzy Lévesque, ma co-animatrice, est là comme à l'habitude. Et aujourd'hui, on reçoit Sylvain Charlebois et on parle alimentation, bien sûr, oui. Le prix du panier, on parle de l'inflation. Les épiceries nous chargent-elles finalement trop cher? Tu avais une question, Izzy, avant la pause?
Ben oui, c'est une question, puis en même temps, une observation. C'est que Michel parlait justement avant la pause, on parlait de changer les habitudes puis d'aller éduquer les gens puis tout ça. Mais en même temps, je pense que les Canadiens, on est des espèces de petites bébés d'habitude. Puis moi, ce que j'observe, c'est que si mon brocoli, j'ai acheté du brocoli la semaine passée, probablement que le brocoli, je vais le racheter quand même malgré son prix parce que dans mes habitudes alimentaires, j'ai un peu toujours eu du brocoli. Puis ça va pas changer. On dirait qu'on reste quand même avec cette pensée-là. Puis je pense que ça a été mentionné aussi avant la pause. Là. On va pas si mal que ça parce que on n'est pas encore justement au stade où en tant que consommateur, on change nos habitudes. On dirait qu'on n'est pas encore rendu au pied du mur au point où on va vraiment changer nos...
Oui, si on mange du bœuf ou du porc, on ne changera pas nécessairement pour le poulet parce qu'il est moins
cher.
Non,
c'est ça. On dirait qu'on n'est pas encore là.
Ben, je trouve que c'est dommage. C'est dommage parce que c'est la bonne façon de procéder. Quand je voyais l'an dernier tout ce que le prix d'un chou-fleur qui était passé à, je ne sais plus combien, Sylvain, 7 $
C'est pas, il va avoir de l'or dessus.
Ça a fait une première page. Je n'ai pas acheté de chou-fleur, moi, cette journée-là, là.
Ah, non, puis deux semaines plus tard, là, je suis là à 2 $
Ben, c'est ça. T'es-tu obligé de l'acheter? La dinde, en fin de semaine, là, pour ceux qui fêtaient l'action de grâce avec la dinde, mais c'est pas nos habitudes à nous tant que ça, mais quoi qu'il en soit, t'es à 2,49 chez Métro.
Malgré, il y a une augmentation. Hein, de plus en plus, il y a des Canadiens qui commencent à faire comme les Américains puis manger la fameuse dinde frite. C'est de plus en plus. Ça a l'air qu'Amazon vend des brûleurs là, depuis quelque temps au Canada.
On l'a vu en grâce spéciale la fin de semaine.
Mais non, mais regarde, tu vois, l'année dernière, là, justement, la dinde, l'année dernière, à pareille date, elle était à 6,59 le kilogramme. Là, elle est rendue à 9,90 le kilogramme.
Quand ça? Où?
L'année... là, je te compare l'année dernière, 6,59. C'était où?
Il n'est pas là partout. Là.
Non, bien là, regarde, tu vois, 9,90 chez Métro. Il y avait, exception circulaire de l'Oblast qui indiquait un prix d'un kilogramme de dinde fraîche. Là, c'était 5,49.
Regarde, tu t'achètes.
Mais c'est ça.
La poitrine de dinde, tu vas payer ça. Mais si la jette entière, tu vas payer moins cher.
Mais c'est pas, c'est ça. C'est, moi, ce que je constate, c'est qu'on n'a pas cette réflexion-là, c'est de faire ce geste-là, puis de bien faire son épicerie, de bien magasiner, de regarder les prix, parce qu'on n'a pas été habitué à ça, à magasiner de façon plus intelligente, plus économique.
Ben, moi, je trouve ça dommage. Je le répète, je trouve ça dommage parce que c'est ça le message qu'il faudrait envoyer.
Ben, dans le fond, on revient un peu le début des années 80. Moi, je suis pas si vieux que ça, mais j'étais assez vieux pour me rappeler qu'au début des années 80, là, le taux de chômage était au-dessus de 15 % les taux d'intérêt étaient au-dessus de 15 % et le taux d'inflation alimentaire était au-dessus de 15 % Les conditions étaient pires qu'actuellement. Et puis, on n'achetait rien, c'était pas en spécial. Puis, on a programmé une nouvelle génération de consommateurs, puis cette génération-là, c'est les X, et les X, selon nos données, on le voit, là, ils acceptent mieux l'inflation, gèrent mieux l'inflation. Ceux qui en arrachent actuellement, c'est les milléniaux. Là. Les milléniaux, là, pour la première fois de leur vie, ils voient que emprunter de l'argent coûte de l'argent et que le taux d'inflation est un problème. Fait que vraiment, là, oui, les milléniaux actuellement, ils en arrachent parce qu'ils ont des enfants.
Oui. Ouais.
Ils ont des enfants, ils ont une hypothèque, là.
Non, c'est ça, puis c'est vrai, je peux parler, j'en suis une, mais je suis un milléniau. Puis c'est vrai que de ma vie, moi, j'ai jamais été confrontée à une situation dans laquelle on est présentement. J'ai jamais vécu ça et on ne m'a jamais préparé à ça. Donc, ce que Michel mentionnait, justement, d'avoir une éducation par rapport à ça, crime, c'est une urgence, là, en ce moment.
Oui, c'est une urgence, mais les milléniaux, c'est difficile de faire, c'est pas un modèle unique. Hein. Dans ce groupe d'âge-là, il y a des gens de différentes choses. Mais les tendances qu'on observe, ben, d'abord, c'est qu'ils n'aiment pas beaucoup faire l'épicerie.
Effectivement.
D'une part, alors que moi, j'aime ça, là, je me promène dans les allées et tout, mais les milléniaux, eux autres, ils n'aiment pas bien ça. Puis deuxièmement, j'allais ajouter, ils cuisinent pas beaucoup non plus.
C'est ça. Et moi, je dirais, il y a autre chose qui s'ajoute aussi là-dessus pour les milléniaux. C'est aussi la génération qu'on a souvent encouragé à payer plus cher pour avoir du bio. Et c'est aussi la génération qu'on a découragé de se promener entre les différentes épiceries parce que ça dépense de l'essence. Et ça fait du tort à la planète.
Oui, c'est vrai.
Mais les milléniaux ont été élevés dans cette ligne de pensée-là. Là.
C'est vrai.
Moi, je vais revenir sur mes distributeurs, parce que même si tout à l'heure, je me suis emmêlé les pinceaux entre mon Carrefour et mon Couche-Tard, que c'est l'autre qui a acheté l'autre. Là. Ouais. Mais il reste que moi, dans mon esprit, je fais un peu partie de ces consommateurs qui se disent il n'y a toujours bien pas beaucoup de choix de distribution au Canada. Alors, je comprends tous les arguments qu'on nous amène. On n'est pas assez nombreux, il y a trop de distance, etc. Mais parallèlement, je vais en Europe quand même assez souvent. Je regarde le coût de l'inflation. On nous dit que c'est terrible en Europe. Mais je trouve que c'est moins cher d'acheter, de faire ses courses en Europe. Actuellement, moi, personnellement, à chaque fois que je suis allé depuis 2 ans, c'est moins cher de faire ses courses en Europe qu'ici, malgré le taux de change. Et c'est surtout beaucoup, beaucoup moins cher d'aller au restaurant en Europe.
Ouais, ben, je te dirais que pour ce qui est de l'épicerie ou de l'alimentation en général, les chiffres, puis Sylvain est probablement plus à jour là-dessus, indiquent que c'est ici encore, comme et aux États-Unis, que le coût de l'alimentation, toutes choses étant considérées, est moins cher en pourcentage là, des revenus qu'ailleurs dans le monde.
En pourcentage des revenus, je serais assez d'accord, parce qu'effectivement, les salaires sont plus élevés au Canada.
Quand on regarde, comparons la situation entre la France et puis le Canada, le Canada, son taux d'inflation alimentaire est le plus bas au sein du G7 depuis 2 ans. Si on élimine les États-Unis, là, on s'entend. Là. On a le taux le plus bas. La France a été entre 12 et 15 % depuis 1 an. Là, le taux a baissé. Là. Pour ce qui est du pourcentage des dépenses alimentaires en rapport aux revenus, le Canada est 6e au monde. À 10 % là, on a le pourcentage, le 6e pourcentage le plus bas au monde. La France est au 32e rang. Je pense que le pourcentage est autour de 15 ou 16 %. Fait que l'enjeu, quand les prix augmentent en France, ça fait beaucoup plus mal parce que la portion alimentaire du budget est plus importante qu'au Canada. Mais Michel a tout à fait raison. T'sais, en tant que société, avouons-le, là, on marginalise l'alimentation beaucoup plus que d'autres régions du monde. L'alimentation demeure pas chère, là, malgré tout.
L'autre point que j'aimerais ça que tu nous expliques rapidement, c'est que tu parles du blackout aussi dans ta chronique. En fait, parce que tu dis qu'il n'y a pas de collusion dans les 5, tant mieux, mais tu dis quand même que la période du blackout, explique-nous exactement c'est quoi la période du blackout de novembre à février, puis tu dis que ça pourrait quand même engendrer un peu de collusion entre les fournisseurs.
Ben, je l'expliquais à Paul Arcand la semaine passée, puis encore une fois, c'est une autre déception, quelque chose que le ministre aurait pu faire maintenant. Parce que les gens, ce qu'ils se rendent pas compte, là, avec le fameux blackout, bon, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi le blackout, c'est essentiellement les bannières qui demandent à leurs fournisseurs pendant 3 mois, de novembre à février, de ne pas augmenter les prix. Okay? C'est une pratique non écrite, c'est une pratique qui dure depuis des années, et la raison pourquoi ils suivent cette pratique-là, c'est simplement parce que c'est trop occupé durant les fêtes, puis ils n'ont pas le temps de changer les prix. Mais aujourd'hui, en 2023, là, tout est numérisé. Là. Ils ont les systèmes en place pour gérer les changements de prix. Donc, c'est une excuse qui est un peu bidon, à mon avis. Mais ce qui arrive dans les faits avec les prix en amont de la chaîne, c'est que les fournisseurs montent les prix en octobre et remontent encore les prix au mois de février après le blackout. Et le consommateur est comme, si vous regardez l'inflation, les prix, actuellement, les bananes négocient avec les fournisseurs et les prix augmentent. Et forcément, au début de novembre, les prix vont augmenter aussi. Ça pénalise le consommateur avec beaucoup plus de fluctuations sur le marché. Ce que j'avais recommandé au ministre, c'est d'arrêter ça, de demander aux bananes d'arrêter ça, mais il l'a pas fait.
Il y a peut-être une information. Quand on parlait tout à l'heure de Couche-Tard qui voulait acheter
Carrefour,
faut dire que Couche-Tard, là, c'est un joueur planétaire. Là. C'est pas celui qu'on voit nécessairement au coin de l'œil chez nous. Là. C'est le deuxième, je crois, hein, plus gros joueur dans le domaine d'alimentation et station-service là, ces ensembles-là. Partout, à peu près sur tous les continents, j'ai l'impression.
Ils ont 17 000 magasins. C'est immense, là, comme Couche-Tard. Là. Leur problème, c'est que leur habileté de convertir les dollars en essence en dollars alimentaires va être de plus en plus difficile en raison de l'électrification du système. Il y a de plus en plus de chars, il y a de plus en plus de voitures électriques. Là. Ça va être beaucoup plus difficile pour eux d'aller chercher une clientèle pour leur vente alimentaire en se basant sur leur modèle actuel. Alors, c'est pour ça qu'ils veulent faire un virage vers la distribution.
Oui, mais ce qu'ils ont acheté dans le monde au cours des dernières années ou dernières décennies, c'était justement ça, cette combinaison de dépanneurs et stations-service. Tu as fait raison.
Oui, puis leur offre alimentaire, c'est pas, dépanneur. Là.
Non.
C'est vraiment, il y a des bons produits là, chez Couche-Tard, c'est assez incroyable. Là. Puis il y a des produits qu'on ne trouve pas ailleurs, des fois.
Ils pourront peut-être partir des épiceries avec une multitude de bornes de recharge. Peut-être ça deviendra un hit.
Ben, probablement.
C'est ça.
J'ai l'impression que oui, effectivement. Mais c'est pour ça, quand on parlait de Couche-Tard qui achetait Carrefour, qui voulait acheter Carrefour, c'est qu'ils ont des moyens. On ne les voit pas tant que ça ici. Ce qui est visible, c'est une petite partie. Les 17 000 là, sont ailleurs sur la planète.
Il faudra encore au Québec que les fameux couche-tard de ce monde ou les autres qui sont au centre-ville existent encore, parce que ce soit de l'électricité ou de l'essence, pour l'instant, je ne sais pas si tu as vu, mais les stations essence dans Québec, c'est une rareté. Si tu ne vas pas au Costco, là, cherche-en une, là, il n'y en a plus beaucoup. Exact. Je pense qu'il en reste deux.
Moi, j'ai une dernière question. Est-ce qu'on va voir des effets à long terme de cette rencontre-là avec les grands épiciers?
Je pense pas que M. Champagne a fini. Moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir d'autres mesures qui vont être présentées, parce que là, il faut comprendre que le gouvernement, la principale raison pourquoi il y a une rencontre, là, c'est en raison des sondages, on s'entend, là. c'est sondages. Oui, puis, évidemment, eux, ils veulent rapatrier, ils veulent recontrôler le narratif autour du coût de la vie. Là. Donc, c'est pour ça que depuis quelques semaines, on voit les libéraux s'attarder au coût d'habitation, puis à la crise du logement et au coût du panier d'épicerie. Tant que les sondages vont être bas, moi, j'ai l'impression que M. Champagne ne lâchera pas le morceau. Là. Il va essayer d'aller trouver de nouvelles mesures. Il va présenter de nouvelles mesures, je pense. Si, par exemple, les sondages favorise plus les libéraux, peut-être qu'on va voir la fin de cette stratégie-là, mais moi, j'en doute. Là. Moi, j'ai l'impression que les libéraux vont être en bas dans les sondages pendant un certain temps. Là.
Mm-hmm. C'est intéressant.
Oui, ça va être à suivre. Effectivement, ça va être de voir aussi de quelle façon sur quoi ils vont se rabattre, si est-ce qu'on continue de rester en bas dans les sondages.
Là, il y a le code de bonne conduite là, qui est actuellement là, en discussion. Je ne sais pas si c'est au niveau pan-canadien ou si c'est quelque chose qui...
Non, c'est pan-canadien, puis c'est le ministre québécois André Lamontagne qui co-préside le comité. Mais vous savez qu'il y a eu un changement de ministre au fédéral. Là. On est retourné avec M. McCauley.
Ben oui, ben oui.
Donc, on va voir. Mais c'est vraiment, moi, à mon avis, la clé appartient au ministre de l'Agriculture du Québec, André Lamontagne, pour avoir faire avancer les choses au Canada, là, pas juste au Québec, mais au Canada, parce que c'est lui qui, à mon avis, maîtrise bien le dossier, comprend bien les enjeux, surtout pour le Québec, parce que la transformation alimentaire, c'est un secteur archi important, là. C'est au Québec où on transforme le plus nos denrées agroalimentaires. Alors, le code, vraiment, c'est pour protéger ces PME-là le plus possible. Fait que c'est certain que M. Lamontagne est très motivé à faire aboutir ce projet-là qui est le code.
Oui, il s'y connaît bien aussi, parce qu'il vient d'une famille de grands épiciers.
Absolument.
Lamontagne.
Absolument.
C'était son...
Puis M. McCauley, là, je veux pas lui enlever le mérite, mais c'est un producteur laitier. À l'île du Prince-Édouard. Ouais. Il connaît moins l'économie de la chaîne alimentaire. Là. Il connaît la production laitière, mais c'est à peu près tout. Là.
Ben excellent. Ben merci beaucoup. Ça complète cette émission de La Quotidienne. Merci beaucoup, Sylvain Charlebois, Yannick Patelli, Michel Saint-Pierre.
Merci.
Easy,
merci,
comme à l'habitude. Passez une bonne journée. On se dit à la prochaine édition.
À la prochaine.
Merci, bonne journée.
Au revoir. Au revoir.